On dit Genet pour ton prénom, hein ?
Ouais.
Genet. Et c'est un nom, un prénom commun ?
Ça existe comme nom de famille, donc comme Véronique Genet, l'actrice. Et non, mes parents aimaient bien Jean Genet, puis ils ont trouvé que ça sonnait bien, puis ils sont arrangés pour que ça passe, disons. Mais je crois qu'en Turquie ou dans les pays par là-bas, il y a des...
Il y a des Genets.
J'ai eu des images que le FRAC m'a envoyées. Je suis allé un petit peu sur le site, j'ai essayé de me faire une idée un petit peu des dimensions de la salle et tout ça, mais bon, c'est toujours différent. C'est un peu comme un appartement, quand on le visite, on signe et tout ça, puis quand on arrive avec nos meubles, on est la gloups, c'est plus petit ou c'est trop grand, comme ça.
On n'avait pas bien regardé la couleur de la moquette.
Voilà, exactement. Mais quand je suis arrivé... et que j'ai découvert la salle, elle me paraissait quand même plus grande que l'idée que je m'en faisais, quoi. Surtout le plafond, qui était plus haut que prévu, ce qui est très bien.
Alors, à l'origine, ton projet, la mise en espace, la muséographie, entre guillemets, avec Laurence Gâteau, est partie de la série de dessins que tu présentes ?
Voilà, alors... Elle avait eu l'occasion de voir à la Villa Arson mes dessins il y a quelques années, puisque c'est un travail que j'ai commencé en 2001 ou 2000, dans ces eaux-là. Elle avait très envie de les présenter, d'en présenter un grand nombre. C'est vrai que c'est un travail que je présente relativement rarement. En tout cas, en plus petite quantité, ça m'arrivait quelquefois... une trentaine, quelque chose comme ça, mais d'en présenter, là il y en a je crois 170, on dit comment ici, 170. Donc c'est plutôt assez rare et c'est vrai que ça fonctionne bien quand il y en a beaucoup. Et à partir de là, ben, moi je voulais pas non plus présenter que mes dessins parce qu'il y a donc d'autres aspects dans mon travail. Et après, on est parti sur l'idée d'un mur bien rempli. Et puis par la suite, ben, se sont additionnées les sculptures, le dessin de Calamar, donc le dessin mural, et diverses interventions.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta pratique du dessin? On parlera des autres éléments dans la salle d'exposition ensuite, peut-être. Mm-hmm. Mais peut-être on pourrait décrire un ou deux formats A4 qui sont donc installés façon paysage. Mm-hmm. Il y a beaucoup de lettres dans tes dessins.
Que des lettres. C'est la donnée de départ, en fait. C'est quand j'ai recommencé, j'ai toujours dessiné, mais quand j'ai commencé cette série de dessins sur format A4, je savais pas très bien quoi dessiner. Je me suis dit, ben tiens, je vais prendre des mots plus ou moins au hasard et je dessinais ces mots. Bon, j'ai toujours été intéressé par la question de lettrage, de typographie, les graffitis et tout ça. Donc c'est parti un petit peu comme ça, c'était pratique, je me suis dit il y a plein de mots autour de moi, ça me fait un sujet pour travailler le dessin. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à reprendre soit des titres de chansons, soit des jeux de mots, soit juste des mots comme ça, et puis de les mettre en scène de manière un petit peu automatique, c'est-à-dire que je sais jamais très bien à l'avance ce que ça va donner, mais ça joue souvent sur des décalages entre ce qui est écrit, ce qui peut se trouver autour, et après ça peut être uniquement du remplissage ou de la décoration. Enfin, c'est vraiment juste le plaisir de dessiner de manière assez libre. Et donc, mes seules contraintes, c'est prendre la feuille horizontalement et puis qu'il y ait quelque chose d'écrit. Et puis après, ça s'arrête là. Après, comme on le voit ici, je me laisse vraiment beaucoup de liberté par rapport à la technique.
Oui, donc aussi bien de ce que je peux voir d'ici, du crayon bic que du feutre, que... est-ce que tu utilises aussi du fusain? Non, pas vraiment.
On trouve du crayon de couleur, on trouve du crayon gris, du stylo noir. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver sur un bureau d'écolier, disons. Enfin, ça fait aussi un petit peu un clin d'œil par rapport à mes années de collégien. Où je dessinais dans les marges des cahiers. Et de même que les feuilles sont en général les feuilles récupérées. Il y a des feuilles à dessin standard, il y a des circulaires que je trouvais à gauche, à droite. C'est en général rarement des feuilles toutes neuves, toutes propres. Et dans un certain nombre de cas, c'est même... Des feuilles que j'ai utilisées dans le cadre de mes cours de dessin, parce que j'enseigne donc le dessin à l'école publique. Je montre fréquemment des petits croquis, des petits bidules aux élèves. Et je récupère ces feuilles, donc j'aime bien quand la feuille a déjà sa propre histoire au moment où je commence le dessin, donc c'est même plutôt intéressant. Après, moi, je crois que ça fait écho à beaucoup de choses différentes. Ça peut être des jeux de mots popotage, ça peut être des choses plus sérieuses, ça peut être des fois, effectivement, un humour un peu absurde dans certains dessins. Enfin, c'est vraiment, je crois que c'est un travail qui est... Ouais, qui reflète vraiment énormément de choses différentes que j'aime. Dans certains cas, ça peut même être des dessins préparatoires pour des sculptures.
Oui, voilà. J'allais te poser aussi cette question. Est-ce que ça génère d'autres parties de ton travail? Enfin, souvent, les artistes parlent du dessin comme une espèce de matrice facile à explorer, puisque tu es chez toi et puis tu as cette pratique intime, immédiate, et qui peut fixer certains passages d'idées qui vont ensuite se matérialiser différemment.
Je crois que j'avais assez envie de mettre au même niveau des dessins préparatoires que des dessins aboutis, terminés. Donc, j'ai envie que des dessins entre guillemets brouillons, c'est-à-dire griffonner quelque chose ou alors une esquisse pour un projet, tiennent aussi bien la route qu'un dessin plus réfléchi et plus travaillé. Donc après, au fil des années, c'est vraiment devenu un travail en soi. Donc c'est vrai que je sais que ces dessins vont finir dans mes classeurs et après vont être exposés dans un frac ou ailleurs. Donc c'est peut-être un peu moins naturel qu'au début, mais au début j'avais vraiment envie, je pense, peut-être de désacraliser aussi l'idée de dessin terminé, pas terminé. Enfin, finalement, à partir du moment où le dessin est fait, le dessin existe, quoi, qu'il soit bon ou moins bon. D'ailleurs, je pense qu'il y a des dessins moins bons que d'autres ici, mais c'est important qu'ils y soient aussi, pour faire ressortir les bons.
En tout cas, oui, il y a vraiment ce qui est sensible pour moi, c'est ce côté plaisir. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, un côté pop aussi.
Un côté pop, parce que ça fait référence soit au langage de mes élèves, par exemple le dessin où s'écrit Gueudin, c'est donc dingue en verlan, et ça m'amuse comme mot, quoi, d'entendre ça. Ça peut être référence à la musique, comme Let's Jack, référence à l'acid house, des choses comme ça. Ça peut être donc comme j'en parlais avant, des jeux de mots comme porter plainte, tout à droite avec plainte écrit PLINTHE, donc des choses comme ça. Et après, ça, c'est aussi des fois la fascination pour certains mots que je trouve un peu étranges lorsqu'on les découpe, comme par exemple chignon.
Mm.
Là où j'ai coupé le mot en CHIGNON, donc non.
Et ce qui fonctionne bien aussi, c'est le contraste à partir de la même pratique entre ce mur, donc qui est le mur quand vous entrez dans l'espace d'exposition à gauche, et puis le mur qui est en face dans la salle Mario Torrent, donc où s'inscrit la fenêtre, où là tu proposes un dessin mural, et ça donne encore une extension différente à ta pratique du dessin.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux nous parler de ta passion pour les comment tu m'as dit, pour la cryptozoologie?
Cryptozoologie, donc la zoologie des animaux cachés, donc tout ce qui est monstre mythique. À partir du moment où l'animal est découvert, ça ressort plus de la cryptozoologie, mais ça parle des calamars géants, quand on retrouve des traces ou des carcasses et qu'on se dit peut-être qu'il y en aurait de 30 voire 40 mètres de long sous l'eau, donc là on commence à en repêcher de plus en plus, à en filmer, donc c'est une période intéressante pour ce hobby. Mais c'est vrai qu'à la base, donc j'étais surtout fasciné par les calamars géants, de par leur forme et puis aussi ils arrivent à stimuler notre imaginaire, donc je crois que tout le monde a vu 20 milieux sous les mers, donc tout le monde, c'est assez vite parlant, parce que c'est un animal assez effrayant, étrange, et puis en même temps, tout le monde a mangé des calamars frits à la romaine, donc ça relativise un peu. Et après, j'ai fait d'autres pièces donc, qui parlaient soit de monstres terrestres, comme donc la peinture du Bigfoot américain, donc le Yeti américain, et la petite sculpture au sol représentant Nessie, donc le monstre du Loch Ness. Mais c'est vrai que ce travail sur la cryptozoologie, là je l'ai abordé donc à travers deux sculptures en bois peint et puis en dessin, mais là je me laisse carte blanche au niveau de la technique. Ça peut être une maquette, ça peut être un dessin mural. Il m'est arrivé de montrer aussi mes photocopies, donc ma banque d'images sur le thème, ou de faire du dessin sur papier, mais un autre format que A4, un peu plus grand. Donc, par rapport au dessin, c'est vrai que le dessin donc avec les lettrages, où j'ai comme contrainte le format et puis l'écriture d'un mot ou d'une phrase. Par rapport à la cryptozoologie, c'est plutôt le thème qui est fixé, et après je me laisse libre quant à la technique. Donc, et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez monumental, vu que le dessin occupe tout le mur, qui mesure je ne sais pas combien, 12 mètres peut-être. Donc, un dessin assez grand, et en même temps, de par le trait relativement fin, d'avoir un dessin qui reste aussi qui reste léger, qu'on peut presque oublier en même temps. Et aussi la façon dont le calamar est représenté, c'est-à-dire on a donc le corps sur la droite qui sort de l'eau, et par endroits on découvre ces tentacules qui sortent de l'eau aussi, et donc on devine l'ensemble du corps, qui est vraisemblablement assez grand, sans que l'ensemble soit dessiné, disons. Quand je représente justement des monstres, ça peut être un serpent marin, un monstre du Loch Ness ou des choses comme ça, quand je les représente à la surface de l'eau, j'aime bien ce un peu l'idée de l'iceberg qui est dissimulé. Enfin,
oui, et puis cet affleurement
voilà.
Ondulatoire là, qui se retrouve vraiment bien avec le Nessie qui est au sol.
Mm-hmm.
Y a aussi cette sensation d'un hors-champ,
mm-hmm.
hors espace d'exposition, quoi. Qu'il y a quelque chose qui se passe derrière le mur.
Mm-hmm.
C'est un dessin, oui, très, très fin, très délicat, assez léché. Comment tu as travaillé, d'ailleurs ?
J'avais un croquis, enfin un dessin, un peu, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Enfin, j'avais même plusieurs idées. Et finalement, donc, on est parti là, sur cette idée-là. Et après, ben, je travaille enfin, sans filet, c'est-à-dire que j'ai commencé par le corps. Et après les tentacules, et après les ventouses, après les petits effets d'ombre, les petites vaguelettes, les choses comme ça. Alors, c'est vrai que ce travail de dessin, quand j'interviens au mur, j'essaye d'avoir un résultat plus léché que sur mes dessins à papier. C'est-à-dire que je vais pas commencer à laisser des grosses ratures ou alors repeindre des parties, je sais pas. Enfin, j'essaie de quand même bien maîtriser le sujet. Par contre, vu que je crois que je m'attache beaucoup au geste, à l'acte de faire le dessin, enfin, le but c'est pas d'avoir une image qui est exactement identique au projet initial, mais donc s'il y a des erreurs, des parties qui fonctionnent moins bien, je les tolère. Enfin, ça fait aussi partie de cet équilibre de, enfin, ce dessin maladroit et en même temps quand même maîtrisé un minimum. Mais c'est vrai qu'autour il y a certaines vaguelettes qui sont peut-être de trop. Il y a peut-être des endroits qui me déçoivent un petit peu, ou je sais pas, mais ma foi, je l'accepte après tel qu'il est. Je crois que dans mon parcours, je me suis je me suis souvent intéressé à l'idée d'échec ou de rature, et assez tôt je me suis dit que j'allais accepter aussi les défauts des pièces. J'ai évidemment toujours été fasciné par les graffitis sans en faire moi-même. On le retrouve dans mon travail de lettrage, mais pour un dessin de calamar comme ça, c'est vrai que il y a un peu des similitudes avec un graffeur qui aurait un dessin à faire un petit peu dans l'urgence comme ça. En général, je pense pas qu'ils se baladent avec leur rétroprojecteur. Il y a le même aspect un peu travail sans filet, c'est-à-dire on le fait, puis ma foi, après c'est pas parfait, mais le dessin existe, quoi. C'est un petit peu la même chose. Puis aussi ce rapport à la surface, quoi, de remplir une zone donnée avec là c'est un calamar, mais ça pourrait être une grosse typo ou des choses comme ça. En tout cas, pendant mes voyages, entre autres à Berlin ou comme ça, j'étais très, très intéressé. Je faisais des allers-retours en métro pour prendre des photos, des graphes. Et c'est aussi le rapport, je crois, le rapport à l'être humain, enfin à l'échelle,
à
disons.
L'échelle.
Voilà. Donc surtout les graphes avec des lettres qui commencent à faire 5 mètres de haut, je sais pas, ça me fascine. Donc,
des gros mots.
Pas mal.
Mais c'est vrai que la pratique, enfin pour moi, ce qui est toujours fascinant, c'est l'intuition que certains graffeurs ont,
mm-hmm.
de la surface et de l'espace, quoi. Et là, moi, ce que je retrouve aussi, c'est la manière dont tu as utilisé la fenêtre, quoi. T'as intégré ça, parce que c'est tout le temps ce que tu trouves chez les graffeurs, à savoir il faut qu'ils intègrent tout un tas d'éléments hétéroclites dans l'architecture, etc. Et qu'il y en a qui arrivent vraiment intuitivement à refaire une cohérence graphique.
Bon, des fois, pour les fenêtres, ils se prennent carrément dessus. Donc,
soit il recouvre, soit il valorise.
Enfin, oui, tout à fait. Oui. Ensuite, cette peinture sur bois, donc cette espèce de grosse patate qui représente donc un Bigfoot ou un Sasquatch. En général, on l'appelle le gorille parce que ça évoque un gorille, mais c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est une peinture que je présente tout le temps dans un angle et puis un petit peu en hauteur, légèrement incliné. Je crois que moi, j'avais pas envie de la mettre à plat contre un mur. Quand on l'accroche comme ça, quand elle est pendue dans l'espace de cette façon, ça s'apparente plus à un objet plat qu'à une peinture classique. Donc, j'avais envie de faire de la peinture au moment de la réalisation de cette pièce, mais je n'étais pas prêt encore à faire de la peinture sur toile classique. Et donc cet angle, c'est un peu, ben, je pense, que le seul qui restait, puis ça nous paraissait bien d'avoir qui sont un petit peu cachés derrière la porte comme ça. C'était en fait, pour la petite histoire, c'était le socle d'une sculpture en papier mâché qui représentait une petite butte comme ça, une petite montagne avec un château dessus, comme un château de sable, et puis au milieu du château il y avait un calamar échoué. Et cette sculpture a mal supporté l'humidité dans ma cave, donc
le tumulus s'est effondré.
Voilà. Non, j'ai essayé de la refaire et ça donnait rien, et finalement je me suis retrouvé avec cette grosse planche et j'avais envie de faire un portrait de Yeti ou quelque chose comme ça, et ça me paraissait bien, et un petit peu à l'image de mes dessins avec les feuilles récupérées, là c'était c'est donc aussi un support qui a déjà une histoire,
un parcours, hein.
Donc les quatre trous là, les quatre poignées, c'était en fait des poignées pour transporter la maquette, la sculpture précédente, mais de nouveau aussi avec l'utilisation des cordelettes là, ça donne un objet pas fonctionnel, mais qui a il y a l'aspect pratique comme ça qui est un peu qui est assez mis en avant, quoi.
Moi, j'ai été frappée là encore par le côté assez pop. Mm-hmm. Et puis remarque tout à fait parallèle, on a toujours la sensation que ce type de personnage, donc Bigfoot, Yeti, ça, est super seul. Oui. Et je trouve que ça, dans ta peinture, on ressent bien ça, quoi. Mm-hmm. Une espèce de détresse.
Mélancolie. Mm. Ouais, moi, c'est drôle parce que j'avais une image de départ dont je me suis inspiré d'un dessin de Yeti. Et j'étais pas du tout parti dans l'idée de lui donner cette expression, mais c'est vrai que quand je l'ai terminé, j'étais très content du résultat, mais je me suis dit, tiens, il a l'air un peu triste ou mélancolique, et c'est un peu accidentel, mais c'est vrai qu'il y a effectivement ce côté un peu solitude comme ça dans ces monstres comme ça qui sont peut-être tout le monde parle d'eux, tout le monde fait des spéculations, puis eux ils sont au fond de leur forêt ou au fond de leur Loch Ness comme ça, non, tout seul, et puis ils aimeraient peut-être un peu de compagnie.
Et donc on a des tonalités brunes, rouges, parmes, et du coup on a un écho chromatique que j'imagine voulu avec
ce cercle.
Un cercle donc qui est installé au mur. Mm-hmm. Alors est-ce que tu peux nous décrire le matériau utilisé ?
Alors donc on a un cercle rouge qui fait la taille du mur, c'est-à-dire qu'il est pratiquement tangent au sol et au plafond. Et le trait fait peut-être 5-6 cm de large. Et il est formé donc par la bande rouge qu'on trouve sur de l'adhésif d'avertissement. Donc c'est ces adhésifs qu'on peut trouver sur des chantiers qui alternent donc une diagonale blanche et une diagonale rouge. Et là, pour moi, ça a beau être un dessin mural, mais c'est une pièce que j'associe directement à mon travail de sculpture plus sérielle, comme ça, où le but est de détourner un matériau et d'en faire quelque chose de nouveau de manière assez simple, comme ça. Et ben là, c'est d'utiliser ces diagonales rouges sur ces adhésifs pour recréer une ligne et qu'au final, quand on voit la pièce à quelques mètres, on ne distingue pas forcément le scotch de départ, disons. De faire oublier le matériau de départ, c'est un peu le but. Tout comme dans la sculpture du cylindre à base d'attaches en plastique ou d'autres pièces comme ça. Donc,
Oui, et puis ça lui confère aussi une sorte de fragilité.
Mm-hmm.
Et là encore, donc on reparle de ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'accident ou une espèce pas de maladresse, mais voilà, on n'a pas la perfection du cercle, voilà. Jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Donc il y a des petites imperfections et ma foi c'est comme ça. Il y a des petits décrochements à l'intérieur qui sont normaux. Enfin, je vais pas commencer à redécouper le cercle, c'est pas le propos. Et voilà, là, c'est une pièce que j'aime bien parce qu'il y a une espèce d'équilibre entre, ce cercle comme ça qui tient à peine debout, qui est formé de plein de petits fragments de scotch. J'aime aussi le reflet du scotch qui renvoie la lumière de manière différente que le mur. Donc,
oui, il y a un côté dynamique à cause de ça.
Ouais, ouais.
Et puis après, tout ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure autour de la peinture minimale, abstraite minimale. Et ça, c'est quelque chose dont tu joues. Enfin, je suppose que ça t'amuse de jouer.
Oui,
avec
moi, ça.
Ça
m'amuse. Ça m'amuse de parler de ça. Là, ça parle peut-être de la peinture minimale parce que j'utilise des matériaux comme ça, j'essaie toujours de trouver la solution la plus simple et la plus évidente. Je ne cherche pas à représenter quelque chose. Donc, c'est vrai que j'arrive souvent à des formes circulaires ou des triangles ou des tubes, enfin des formes assez géométriques, des formes un peu basiques comme ça. Et après, oui, c'est clair que ça pourrait être une peinture réalisée au scotch, ça pourrait être... D'ailleurs, on pourrait dire que c'est de la peinture au scotch. Ça pourrait être un cercle de Mosset, mais un petit peu agrandi et changé de couleur. Enfin, moi, ce qui m'amuse, c'est justement de faire ces formes abstraites ou minimales ou les deux, mais avec d'autres matériaux, avec des matériaux aussi qu'on peut trouver dans l'atelier de Monsieur Tout le Monde. Et en même temps, c'est pas à la portée de tous. Enfin, je veux dire, ça prend du temps, ça demande quand même un peu de concentration. Enfin.
Et puis il y a cette notion de détournement, quoi. Détournement ou bonne idée aussi. Enfin, voilà, ce déclic.
Voilà.
Par rapport à la potentialité de ton rouleau de scotch. Et alors, donc, on passe à la colonne.
Oui.
Donc après, il y a, on peut peut-être les rassembler dans une grande famille.
Oui.
Quatre. Alors, quel nom tu leur donnes? Est-ce que tu parles de sculpture?
Tu dis les...
Quatre sculptures différentes, trois qui sont au sol, au centre de la
Exactement.
Salle. Et puis, une installation au mur. Est-ce que ce terme te va, toi, sculpture?
Oui, moi je sculpture ou objet ou comme ça. Enfin, pour moi, c'est de la sculpture, c'est-à-dire c'est un rapport au volume, disons. Et même la sculpture, les œillets présentés au mur, donc qui est plate, pour moi c'est vu qu'il y a un rapport à la forme de l'objet dans l'assemblage, donc pour moi, j'utilise volontiers le terme de sculpture. Et ça, c'est donc mes sculptures plutôt sérielles, c'est-à-dire où je cherche à détourner un objet. Enfin, en général, c'est des petits matériaux qu'on trouve un paquet de 200 ou 500, comme ça. Et d'en faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'utiliser la forme de l'objet. Par exemple, pour le cylindre des serre-câbles, donc... Et puis d'en faire une espèce de tissage, et après le refermer, d'en faire un tube qui aurait pu être plus large, plus haut, mais là ça me semble bien, il fait à peu près ma taille, donc c'est une espèce d'autoportrait. On m'a dit que ça ressemblait aussi à un tampax pour mammouth, donc c'est selon. Y a un motif de base, donc trois attaches enfilées les unes dans les autres, donc qui se mordent la queue. Et après, j'ai l'unité de départ, j'essaie d'assembler plusieurs de ces unités. Après, je me retrouve avec ces tiges, donc l'extrémité du serre-câble, que je pourrais couper, mais j'ai trop de respect pour le matériau. Donc, je cherche plutôt à les enfiler en suivant une logique précise. Puis après, c'est comme tricoter, disons, c'est... C'est un peu du travail à la chaîne, on assemble, on regarde ce que ça donne, on regarde au niveau des proportions.
Et alors toi, dans cette pratique-là, à l'intérieur de ton travail, ce détournement est important. Est-ce que la temporalité de la fabrication est importante aussi? Parce que j'imagine que après le temps d'expérimentation pour trouver ton module de base, tu passes un temps certain à construire la sculpture
devant Julie Lescaut. Non, oui, ça prend du temps. Ça, déjà, dans mon atelier, j'ai plein de ces matériaux qui sont un peu en attente d'être activés. Enfin, je trouve pas forcément directement la bonne astuce ou. Des fois, je me promène dans les magasins de bricolage, j'achète des matériaux et finalement, ça tombe à plat,
ça marche
donne
pas
rien.
Comme tu veux.
Alors que d'autres fois, je passe les caisses, je suis déjà en train de faire mes essais. Enfin, c'est assez, je peux être assez vite frénétique comme ça quand je trouve une bonne idée. Et après, ça prend du temps. Surtout que je sais jamais quand la pièce va être finie, disons, donc ça dépend un petit peu du rendu, des fois c'est simplement parce que j'en ai marre, donc toutes les pièces en fait, à part peut-être les boules avec les tiges de bois là pour jouer au golf.
Comment ça s'appelle?
Les tis.
Les tis.
Voilà, je crois que ça s'appelle les tis.
Donc des tis assemblées par
leur pointe,
leur extrémité pointue.
Et ça forme des espèces de boules qui peuvent faire penser à des pissenlits.
Ouais, des fleurs de pissenlit non soufflées.
Voilà.
Et qui sont installées au sol. Donc on a un petit, une petite famille de
9.
9. Et là aussi, il y a quelque chose de très végétal.
Ouais. Mais je cherche pas à représenter c'est quelque chose d'organique ou comme ça, simplement.
Les analogies de ce type-là t'intéressent pas au départ.
Non, après ça m'amuse, des fois je joue ça dans les titres, mais disons que au départ c'est vraiment un défi formel de trouver le bon matériau, de trouver la bonne façon de l'assembler. Et de savoir après où s'arrêter. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces boules, donc, elles se finissent parce qu'on ne peut pas vraiment les continuer. Par contre, les autres sculptures, donc, la pyramide, là, qui s'appelle Petite Cathédrale, les œillets ou le tube, c'est vrai que c'est des pièces qui pourraient se
développer à l'infini.
À l'infini, mais il y a toujours un moment où ça me paraît bien et j'en reste là. Donc,
Donc les œillets dont tu parles, ce sont les œillets qu'on met dans les sur les feuilles qu'on range dans des classeurs.
Voilà, pour renforcer les trous. Et là, de nouveau, un peu comme l'adhésif rouge là qui forme le grand cercle, j'ai envie d'utiliser quelque chose qu'on trouve chez soi. Donc, ce sera rapport un petit peu au bricolage du dimanche, j'allais dire. Simplement d'en faire quelque chose de plus conséquent, et puis un peu avec un geste un peu monomaniaque.
Voilà, oui. Persistant.
Et, voilà. Et là, les matériaux, tout ce qui est adhésif, ça m'a toujours beaucoup intéressé, vu qu'il y a déjà le système d'assemblage
intégré dans l'objet.
Intégré, exactement. Ouais. Comme les attaches, en plastique. Et puis là, j'avais déjà fait un assemblage comme ça, mais sous forme de triangle. Et là, je suis plutôt parti dans un hexagone. Et c'est toujours des formes assez basiques. Donc
là, pour l'instant, on a une alvéole qui mesure 50 cm peut-être de hauteur.
Ouais, dans ces eaux-là.
Tu vas la faire progresser?
Là, je vais peut-être l'épaissir un petit peu. Mais je pense qu'elle est bientôt
prête, quoi.
C'est une espèce d'équilibre. Je la trouvais trop petite avant. Ça ne m'intéresserait pas non plus de faire cet hexagone de 1,50 m de diamètre. Ce ne serait pas le but non plus. Enfin,
Est-ce que, à nouveau, t'es consciente, t'as envie de jouer avec ça, de certains codes du minimalisme par rapport à l'installation au mur, le blanc sur blanc, en écho à ton cercle derrière, ou pas du tout? C'est quelque chose.
Oui, moi j'y pense, mais disons que, comment dire, oui, c'est vraiment ce qui m'amuse, c'est vraiment trouver la solution, de voir ce que ça va donner. Là, avec tous les petits trous, il y a ce jeu d'ombre. Là, c'est pas encore bien éclairé, mais
une épaisseur.
Une épaisseur. Si ça, des fois, ça flotte un peu à quelques millimètres du mur, donc on va voir plus facilement la pièce. C'est en même temps une pièce qu'on peut oublier ou ne pas la voir parce qu'elle est justement blanc sur blanc. Mais je crois que les codes dont tu parles, c'est vrai que un petit peu comme dans mes dessins, j'en parle peut-être, mais avec légèreté. J'aime bien quand il y a un aspect ludique dans mon travail. Et je suis pas du genre à lire 5 bouquins avant de faire une pièce ou comme ça. Donc, mais évidemment que ça me plaît que ça puisse évoquer tout ça, tout en évoquant aussi du matériel de bureau, de bricolage ou autre.
Et puis donc la dernière dont on n'a pas encore parlé,
oui.
Petite cathédrale, alors elle est formée, je ne connais pas le nom de ces petits machins en bois là.
Cheville en bois,
voilà,
ou
les
alors
chevilles.
Tourillon, on utilise ce terme. C'est un comme les chevilles dans les meubles Ikea, il y a ça pour donc solidariser deux pièces, comme ça. Et là, de nouveau, c'est un matériau de base, bon marché, qui se trouve en paquet de 200. Je les assemble de manière à créer une espèce de comment dire, ouais, une pyramide qui là. Elle est mise sur le côté pour qu'on voit l'intérieur, en fait. Contrairement aux œillets ou alors aux cercables en plastique, c'est assemblé avec de la colle, tout comme les pissenlits.
Les petits,
là.
Oui.
Et là, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais un petit peu épuisé tous les systèmes d'attache. J'avais envie de faire des sculptures toujours sérielles, mais de manière plus brute, c'est-à-dire en utilisant un pistolet à colle à chaud. Et puis, ça m'ouvrait toute une nouvelle gamme de possibilités pour faire des sculptures, parce que avant, j'étais vraiment que dans cette idée d'utiliser un matériau et de l'utiliser tel quel, de pas rajouter un système.
Manière
de,
autonome, voilà, comme on disait tout à l'heure. Alors que là, tu peux.
J'ai plus de liberté. J'ai aussi utilisé les chevilles plates qu'on utilise pour les cadres, là, pour les cadres pour faire de la peinture.
Ah, d'accord.
Les qui qui sont un petit peu ovales. Donc, et puis, ouais, effectivement, bah, à partir du moment où on colle deux choses ensemble, ben, on peut coller tout ce qu'on veut. Donc,
et dans n'importe quelle position.
Voilà, ouais. Exactement. Mais n'importe quelle position, mais bon, j'essaie toujours de...
De garder le côté sériel,
voilà,
en fait.
Pas faire n'importe quoi.
La régularité. Et là, du coup, on a un rendu très étonnant par rapport à l'objet de départ, à nouveau. Mm-hmm. J'avoue que je suis étonnée aussi par ton titre, cathédrale. Enfin, par la dimension et monumentale qui résonne dans le nom. Et puis un peu... cérémonieuse comme ça.
Écoute, c'est pas mon titre préféré, mais en même temps, il m'est venu un peu comme ça une fois que la pièce était finie, c'est-à-dire que cette pièce m'évoquait quelque chose de grandiose. Enfin, j'imaginais que ça pouvait être une maquette pour une espèce de monument. Enfin, et c'est aussi un moment où j'ai commencé à plus manipuler mes sculptures après les avoir faites. Enfin, c'est une sculpture que j'adore porter, j'adore la regarder et tout ça. Puis c'est vrai que avec ce titre, j'avais envie d'associer quelque chose de petit, de mignon comme ça, puis en même temps quelque chose qui pouvait évoquer quelque chose de plus grand, de grandiose ou... C'est pas tellement, à part ça, l'aspect religieux, mais c'est plutôt
l'échelle.
L'échelle, voilà, de nouveau, on reparle d'échelle. Mais j'ai beaucoup de ces sculptures qui sont sans titre ou alors qui évoquent rien de spécial. Là, c'est vrai que ça évoque quelque chose de différent, mais...
Alors justement, pour finir peut-être sur le titre... est-ce que tu peux nous expliquer ce que speed stacking signifie?
Littéralement, ça veut dire empilement de vitesse, quelque chose comme ça. Donc là, par rapport à ces pièces d'assemblage et puis même à l'accrochage du dessin, donc il y a cette idée d'accumulation et puis en même temps que là, c'est un clin d'œil parce qu'en général, ça prend plutôt du temps. Enfin, il n'y a rien qui a été fait très rapidement ici. Et puis, le terme vient en fait d'un sport qui vient des États-Unis, qui consiste à empiler des gobelets, des tasses en plastique, celles qu'on trouve pendant les matchs de baseball là, aux États-Unis, les empiler le plus rapidement possible en faisant des figures précises. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de...
Je me suis renseignée, mais en fait, avant, je n'avais jamais entendu parler de ça.
Alors c'est un sport complètement débile, quoi, mais il y a des championnats, des courses relais, des fédérations. Il y en a une au Japon, en Allemagne, en France, je crois que ça vient pas encore, Suisse non plus. Par contre, j'ai vu dans les magasins de jouets en Suisse, on commence à trouver le kit de départ, donc... oui, je trouvais très, très amusant et fascinant de voir finalement qu'on puisse mettre de l'énergie dans quelque chose qui a l'air pas très utile, mais en fait c'est un petit peu c'est peut-être un regard aussi sur l'art que je porte là, donc tu vois, c'est des choses futiles qui prennent de l'importance. J'encourage tout le monde à aller se documenter sur Google pour découvrir le speed stacking parce que c'est assez fascinant.
Thank you.